Vous écoutez Radio Mouette.
On est ensemble jusqu'à 11h.
Vous écoutez Radio Mouette. Il est 10h. Elle est retrouvée. Quoi ? L'éternité. C'est la mer allée avec le soleil. Le temps retrouvé, une émission de Radio Mouette.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Le temps retrouvé. Merci à toutes les auditrices et auditeurs d'être avec nous. On entame la troisième et dernière heure de Radio Mouette sur Radio Panique et on est très heureux de passer ce beau moment avec vous. Le titre de l'émission, c'est un clin d'œil au dernier tome de l'œuvre À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Et l'idée derrière cette émission, c'est justement de se dire « Et si on parlait des vieillesses comme d'un temps retrouvé ?» Ce qu'on a envie de faire avec cette émission, c'est de sortir du grand tabou du vieillissement qui fait qu'on met à Bruxelles 13% de la population, c'est la part des plus de 65 ans, aux oubliettes. On a envie de réaffirmer que ce temps de vie représente tellement d'âges et de parcours différents. Vieillir n'est pas un gros mot, ce n'est pas quelque chose à cacher et il est urgent de redonner du sens à ces temps de vie. Alors, le temps retrouvé, c'est une émission pour, à notre échelle, secouer tout ça, parler des vieillesses au pluriel et des bonheurs qui s'y trouvent. Agnès Varda disait « Il n'y a qu'un seul âge, deux points, vivante ». Et je pense que ça résume bien le propos de cette émission. Pour cette première édition, on va parler d'habitat, de ce qui fait qu'on se sent chez nous et de toutes les formes que ce chez-soi peut prendre en fonction de nos envies et de nos besoins alors qu'on avance en âge. C'est une question super importante et qui cristallise beaucoup de craintes. Et alors ensemble, on va chercher à réenchanter notre regard là-dessus et découvrir des possibilités d'habitat qu'on ne connaissait pas. Pour parler d'habitat, on a choisi d'amener notre studio dans un lieu emblématique sur la question, ce lieu c'est Passage. C'est un habitat groupé intergénérationnel à Forêt qui abrite en son sein une maison de naissance et une maison de mourance. Aujourd'hui, nous faisons l'émission dans la maison de Mourance. Et pour parler de tout ça, on n'a pas moins de 4 invités, même 5, autour de la table, à qui je vais proposer maintenant de se présenter. Et si ça vous convient, chers invités, je vais proposer, pour vous présenter, je vais vous proposer de nous dire qui vous êtes, où vous habitez et depuis quand, mais sans rentrer dans trop de détails parce que ça, on le fait tout à l'heure. Et de répondre à cette question, qui est un peu philosophique, mais qui est surtout très intime. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se sentir chez soi ? Alors, je propose que la première personne qui se présente, ce soit Isabelle, parce que c'est aujourd'hui Isabelle qui nous accueille à Passage. Isabelle, je te passe le micro.
Mais alors, ça, je voudrais vous féliciter parce que vous avez une bonne articulation. Et on vous entend très bien.
Merci beaucoup, Yolanda.
Mais oui, il faut. Hein.
Bonjour à tous. Donc, mon nom, c'est Isabelle. J'habite ici, à Passage, rue du Delta, depuis un an maintenant. Et donc, c'est un vrai bonheur. Au troisième étage, dans un appartement d'une chambre avec mon mari. Et donc, ce qui fait que je me sens chez soi, c'est la joie. La joie d'être ici avec et des enfants, et des personnes plus âgées, des personnes de tous les âges, juste des personnes, des humains, le soleil par la fenêtre et un quartier où j'aime d'être et un projet que j'aime tellement.
Merci beaucoup. Bob, est-ce que vous voulez nous dire qui vous êtes ?
Eh bien, moi, je suis originaire de Charleroi et j'habite Forêt depuis 67 ans. Et alors, vu mon âge, je me trouve toujours octogénaire. Parce que quand on me demande mon âge, je dis 95. Voilà.
Très bien.
Et j'habite seul à la maison depuis, la même maison, depuis maintenant depuis 64, ça fait 50, presque 60 ans, dans la même maison. Mmh. Et bien sûr, au début, j'étais capable d'améliorer certaines choses, mais maintenant, je ne sais plus rien faire. Mais n'empêche que je garde et que je tiens toujours à y habiter, c'est parce que j'ai participé à son je suis un peu essoufflé, excusez-moi.
Voilà. Très bien. Et si je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se sentir chez soi ? De quoi on a besoin pour se sentir chez soi ?
Ben, écoutez, j'ai élevé ma famille, j'étais marié, j'ai malheureusement perdu mon épouse il y a maintenant 14 ans, mais depuis je reste seul et je suis fort indépendant. Voilà, disons, j'ai une crainte du fait que dans les maisons de repos, on est tenu, je ne sais pas comment l'armée, je suppose, des heures bien précises, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je dors quand je veux, je mange quand je veux, je fais ce que je veux. Alors que dans une maison de repos, je suppose qu'il faut suivre la règle générale. Voilà. Mais ça, c'est une crainte. Il est possible qu'un jour ou l'autre, je serai bien obligé parce que, vu que j'ai une mobilité très restreinte, ben voilà, je fais avec pour l'instant.
D'accord. Merci beaucoup. Yolanda, on vous propose de vous présenter aussi.
Je m'appelle Yolanda Pretelli. Je suis née de parents italiens, mais je suis née en Belgique. Mon père est venu ici en 1922, après la Première Guerre. Et il aimait tellement la Belgique qu'il n'a jamais voulu retourner en Italie. Bon, maintenant, moi, j'étais chez moi il y a à peine un bon mois, depuis le début mars, je crois. Je faisais encore tout, sauf la lessive et le nettoyage. Tous les 15 jours, on venait m'aider. Mais avant de venir ici, le jour avant, j'ai encore fait du potage que j'ai surgelé, mis au deep freeze. Et tous les légumes, je les achetais frais et je les préparais et je les congelais. Parce que je n'ai jamais voulu acheter des trucs congelés ni rien. Je faisais tout moi-même. Alors, qu'est-ce que je peux encore vous dire ?
Maintenant, vous habitez où ? Où est-ce que vous habitez,
attendez, maintenant ? J'habitais ici, tout ouais. près, avenue Clémentine. Et là, j'ai demandé au docteur Lehmann s'il ne connaissait pas une maison de repos. Parce que les derniers temps, il arrivait chez moi, j'étais là. J'avais des problèmes. Et alors, quand je cuisinais, je mettais parfois, et puis j'allais faire le lit, je revenais, c'était brûlé. Je dis, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Alors, il a dit, écoutez, moi, j'ai 3 maisons de repos. Puis, ma petite-fille s'en est occupée par mail avec lui, et elle m'a choisi ici la résidence Bellevue. Et j'en suis très contente, parce que je ne m'attendais pas à être... satisfaite d'une maison de repos. Mais ici, je crois que je suis très contente parce que, primo, d'entrée, vous avez déjà un bel aperçu, parce que l'immeuble est bien. Vous rentrez dans les couloirs et tout, tout est clair, il n'y a rien de sombre. Et puis, quand vous arrivez dans votre chambre, un mur est peint en blanc, l'autre en bleu. Pour moi, c'est comme un demi-luxe. Ça fait un peu moderne, quoique je ne suis pas moderne. Hein. Ouais, j'ai des meubles chinois et tout. Bon, hein. Et alors, je m'y plais bien parce que le personnel est adorable. Je peux faire appel à n'importe qui, elles sont là. Elles sont vraiment, à part quelques exceptions, comme à toutes les règles, hein. Mais je dois dire qu'elles sont vraiment, pour moi, parfaites. Je peux demander n'importe quoi. Comme par exemple, je ne vais pas dîner parce que ça ne passe pas, mais oui, elle va m'apporter une double ration de dessert. Super. Pour remplacer le dîner que je n'ai pas. À part les repas, le reste me convient. Comme monsieur dit, midi, 5 heures, voilà. Ça, c'est ça.
Ouais. Et donc, vous êtes accompagnée aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter aussi ?
Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis Claudia Cardassia. Donc, je suis logopède en maison de repos depuis 5 ans et logopède à Bellevue depuis le mois de novembre. Et donc, c'est vrai que quand on travaille en maison de repos, le plus important pour nous, c'est que les habitants puissent se sentir comme chez eux Et par là, j'entends être libre justement de choisir quand se laver, quand se lever, quand pouvoir manger, etc. Donc nous, le plus important pour nous, c'est vraiment d'accompagner les habitants du mieux qu'on peut et leur donner le sourire. Voilà, donc qu'ils puissent se sentir libres, écoutés et qu'ils puissent se sentir comme à la maison, en fait.
Donc, et pour vous, question personnelle, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire se sentir chez soi ? De quoi on a besoin pour se sentir chez soi ?
Je pense que se sentir chez soi, c'est être dans un endroit où on est en paix, où on se sent libre justement de pouvoir faire ce dont on a envie. Et voilà, un endroit où on se sent serein, où on se sent apaisé. Voilà.
Super. Et pour finir ce petit tour de présentation,
que moi, au début, quand je suis arrivée ici, je n'étais pas du tout autonome.
Oui.
Pas du tout. Alors, avec des petits efforts et des bons soins, il y a une bonne semaine, je change mon lit moi-même le jeudi, je fais ma salle de bain moi-même. J'aide les autres personnes et je débarrasse le soir la table au souper. Et quand il y a des personnes à raccompagner, si je peux le faire, je le fais. Et là, je me sens utile.
Oui. Oui. Eh ben, on en reparlera en plus en fin d'émission quand on reviendra sur les maisons de repos.
D'accord.
Et de tout ce que ça permet. Et là, pour finir le tour de présentation, donc on a Chantal avec nous. Je te laisse te présenter.
Bonjour à tous. Et donc, moi, je suis née en dehors de Bruxelles aussi, à Namur. Et puis, pour faire mes études d'infirmière, j'ai pris mon envol. Je suis venue à Bruxelles et je n'ai plus jamais quitté. J'habite à Boisfort depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Et voilà, c'est un hasard. Je ne connaissais pas cette commune et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à y vivre. Que dire, moi, pour me sentir chez moi ? J'ai vraiment besoin d'un petit coin où je peux me poser dans ma bulle, si j'ai envie, avec un rayon de soleil, un petit fauteuil, des livres, des magazines à côté de moi et piocher dedans avec une petite tasse de café. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose dont j'aurai toujours besoin. Un petit coin où je peux me poser, être tranquille si j'ai envie d'être tranquille, parce que sinon, je suis plutôt quelqu'un de toujours agité et avoir du monde. Et donc, je trouve que ce petit moment de ressourcement fait du bien quand on en a envie.
Félicite en tant qu'infirmière.
Merci.
Parce que c'est besoin.
Et alors, Chantal, justement, vous avez un parcours où vous avez énormément travaillé sur la question des lieux de vie. Vous travaillez encore aujourd'hui sur la question des lieux de vie pour les aînés. Et en fait, ce qui va se faire, c'est que pendant toute cette émission, vous allez nous aider à tisser un fil rouge entre les différents témoignages et à brosser un paysage des différentes formes que le chez-soi peut prendre avec l'avancée en âge. Et alors, je vais, dans ce cas-là, avoir même une première question pour vous, pour vraiment aller maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous aider à nous saisir du sujet qui nous occupe aujourd'hui, qui est donc cette question de habitat et vieillissement ? C'est quoi pour vous les enjeux autour de cette question auxquelles on tentera de répondre par la suite ?
D'abord, c'est vrai que j'ai envie de dire que comme infirmière, depuis mes 20 ans, je m'intéresse au vieillissement et à cette autonomie, ce besoin de pouvoir décider, choisir, continuer à être maître de ses choix et de sa vie, quelles que soient les dépendances, quels que soient les aspects physiques. Donc ça m'a toujours animée. Donc j'ai travaillé et en accompagnement d'équipe à domicile et en accompagnement d'équipe en maison de repos. Et j'ai été directrice de maison de repos, comme ça, ça situe peut-être un petit peu qui je suis. Et en fait, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, ma mission professionnelle et de vie quand même, c'est de réenchanter les lieux de vie, quels qu'ils soient. Que ce soit la vie à domicile, que ce soit les habitats solidaires groupés, que ce soit les maisons de repos avec ce qu'on peut y vivre. C'est vraiment réenchanter ces lieux de vie et je me dis régulièrement que le vieillissement de la population, c'est en fait une opportunité pour l'humanité. J'en ai assez d'entendre que c'est dur, qu'il y aura trop de vieux, que ça va être difficile pour la société. Ben en fait, prenons ça comme une opportunité. Je crois qu'il y a moyen de changer nos regards, de profiter de toute cette richesse de vécu des personnes âgées, de créer du lien intergénérationnel pour transmettre des choses. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui m'anime le plus et je trouve que c'est aussi une opportunité pour que les équipes de soins évoluent, se remettent en question au-delà de leurs actes, qu'elles vivent l'humain qu'il y a en elles. Quand elles choisissent ces métiers, c'est parce qu'elles ont de l'humain. Et donc, je trouve que le vieillissement de la population, aujourd'hui, ça va permettre aux soignants de se reconnecter au sens humain. Donc voilà, on va tisser un petit peu entre les différents lieux de vie, domicile, habitat groupé, maison de repos. Ce que je tiens à dire encore en introduction, c'est tant pour les personnes âgées qui nous écoutent que pour des professionnels, peu importe les dépendances. On peut avoir des dépendances quand on est plus jeune, on peut avoir des dépendances quand on est plus âgé, mais soyons des personnes, considérons les gens comme des personnes qui ont une vie, qui ont une histoire, qui ont des choses à transmettre, à raconter, à vivre encore, pas uniquement être passif. Parfois, oui, on peut être passif dans son fauteuil, mais on a encore des choses à vivre et qu'on évite de penser à la place des personnes plus âgées, qu'elles aient leur mot à dire. Je pense que c'est vraiment important pour nos sociétés.
Vous écoutez Radio Mouette sur Radio Panique. On est ensemble jusqu'à 11h.
Merci. Alors, on commence ce voyage. On commence ce voyage en parlant de la maison, du domicile. Pour parler du domicile, c'est avec vous, Bob, en priorité qu'on va discuter. Alors, pour ceux qui nous suivent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez déjà entendu la voix de Bob parce qu'on l'avait interrogé pendant le reportage sur les réseaux d'entraide qu'on a diffusé à 8h30. Pendant ce reportage, Bob nous expliquait déjà son lien avec Bratsu Bratsu, le réseau de voisinage qui vise à lutter contre l'isolement des aînés, et il nous avait parlé de son implication dans ce réseau. Alors moi, ce que j'aimerais bien savoir avec vous, Bob, on a commencé un petit peu à en parler tout à l'heure pendant l'introduction, mais donc ce que je sais de vous, c'est que vous habitez à Forêt, que vous habitez seul chez vous, que vous êtes veuf aujourd'hui, que vous êtes né en 28... Oui. Tout comme Yolanda assise à côté de moi, et que vous avez fait le choix, pour l'instant, de rester à domicile, et ce choix, il fonctionne.
Bien sûr.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important aujourd'hui pour vous d'être chez vous ?
Tant que je suis capable de m'investir dans les fonctions nécessaires pour vivre, par exemple faire la vaisselle, faire son lit et tout ça, je suis encore capable de le faire. Malheureusement, cuisiner, je ne le fais plus. On m'apporte le repas tous les matins, tous les midis, je vais dire. Et voilà, c'est une facilité. Et lorsque il y a des activités aux locaux des seniors de Forêt, je participe autant que possible.
Oui, parce que vous êtes, de ce que je sais, vous êtes très impliqué donc, dans ce que propose le service senior de Forêt, qui a différents centres, Diversity et Biabouqué. Et en fait, on vous y voit tout le temps. Vous
ça.
Êtes là.
Oui, plusieurs jours par semaine. Alors, heureusement, il s'est ouvert, se réouvert, près de chez moi, 100 mètres de chez moi, le local qui s'appelle le Biabouqué. J'y vais quelques fois, quelques jours par semaine, aux activités. Voilà, ça me distrait. Être seul, bien sûr, c'est une façon de vivre, mais on aime toujours bien d'avoir de la compagnie, de pouvoir discuter, parler, se souvenir de ces anciens. Voilà.
Et comment est-ce que vous vous rendez à ces lieux?
Mais parce que là, pour le Biabouquet, je n'ai que 100 mètres à faire. Ouais. Donc là, tout doucement, je peux y arriver. Lorsque l'activité se fait au Diversity, là, on vient me chercher. Disons que je prévois que j'aimerais participer, donc on vient me chercher. Et on me ramène par après chez moi. Donc c'est une facilité aussi. Et je remercie très sincèrement la commune de permettre cette facilité.
Oui. Et je crois aussi que si on veut vous voir, si on vient les mardis midi à Miro, à Forêt, dans le lieu qui s'appelle Miro, on est sûr de vous trouver avec un petit bol
aussi,
de soupe.
Voilà.
C'est ça.
Il y a déjà pas mal de temps où tous les mardis à midi, je vais boire la soupe au local de Miro, à la rue de Mérode. Et là, c'est une soupe qui est offerte par l'association Bras-dessus, Bras-dessous. que je connais depuis 5-6 ans déjà. Voilà. Et j'en suis très satisfait, en fait.
Et donc ça veut dire, si je comprends bien, que tous les jours, vous vous donnez les moyens d'aller à l'extérieur,
oui,
pour aller être dans,
oui,
ce type d'échange,
oui, oui,
tous les jours, quoi.
Et alors que le jeudi, où là, je suis vraiment tout à fermé, là, je reste chez moi. Mais alors, il y a la lecture, il y a mon ordinateur, donc je sais m'occuper à autre chose.
Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qui deviennent quand même plus compliquées avec l'avancée en âge? Et qu'est-ce que vous faites pour ça?
Je vais vous donner un exemple. Dernièrement, on a changé les heures.
Oui.
J'ai dans ma cuisine une horloge. Mais elle est située assez haute. Eh bien, moi, je n'oserais plus monter sur une échelle. Voilà, donc je suis dépendant d'autres personnes. Bien sûr, je l'ai demandé à mon petit-fils. C'est lui qui a changé la pile pour... Voilà. Donc, malgré cela, en étant seul, on dépend pas mal de choses d'autres personnes. Voilà. Il y a des choses qu'on ne sait plus faire.
Mais vous avez créé votre petit réseau autour.
Ben, bien sûr.
Vous avez, si je comprends bien, un réseau familial,
oui,
qui vient vous donner régulièrement des coups de main.
Oui, j'ai deux filles. Et l'aînée vient toutes les semaines, le samedi. Elle vient boire et je fais une petite liste des courses à faire. Donc elle fait toutes mes courses nécessaires pour toute la semaine. Voilà. Et le dimanche, c'est ma fille puinée qui vient boire. Et mon petit-fils parfois. Parfois ma petite-fille. Mais malheureusement, pour l'instant, elle travaille en France. Mais son contrat va bientôt se terminer. Et je vais pouvoir la revoir. Voilà.
Et au niveau médical, je crois que vous m'aviez expliqué que vous aviez un kiné qui était encore pas très loin et vous y alliez à pied.
C'est
alors.
Ça. Le kiné, il est peut-être à 200 mètres de chez moi. Mais là aussi, je fais l'effort d'y aller une fois par semaine. Voilà. Mais, oui, et puis si je dois aller à la pharmacie, c'est aussi à 200 mètres de chez moi. Donc, ce sont des distances que je sais encore réaliser sans trop me fatiguer, enfin. Voilà. Mais en arrivant à la pharmacie, par exemple, je suis content de retrouver une chaise. Ce que je regrette dans d'autres magasins, qui n'existent pas de siège pour des personnes qui sont peut-être fatiguées d'y arriver. C'est de l'anti-âgisme. Parce que de l'âgisme, il y en a pas mal.
Il y en a
dans
un sacré paquet.
Dans l'émission, dernièrement, j'ai expliqué à pas mal de choses. Même en forêt, par exemple, au Brass, il y a... Je connaissais le
centre culturel Brass.
Il y avait, pour y entrer, un grand escalier pour descendre. Et cet escalier n'avait pas de rampe. Alors j'étais obligé de prendre le petit ascenseur, une personne. Bon, et je respectais chaque fois, mais faites mettre une rampe. Ils ont fini par en mettre une.
Et ben voilà.
Et maintenant, je sais monter et je sais descendre par mes propres moyens.
Et est-ce qu'elle vous est dédicacée? C'est la rampe Bob, hein, c'est ça?
Ah, voilà.
Ça serait bien, hein, qu'il fasse une petite gravure.
Par exemple, il y a d'autres choses. Sur les trams de deux marches, le 97, ouais. Moi, je ne sais plus prendre le 97. Deux marches, je ne sais pas monter. 82, ça va. Bon. Si j'arrive dans une... Bon, maintenant, c'est trop rare quand j'y vais, mais pas mal de stations n'ont pas d'ascenseur. Moi, j'ai peur de prendre l'escalator.
Mais du coup, si j'entends votre témoignage, vous avez un réseau actif vraiment qui est dans le voisinage,
oui,
et alors qui vous permet de vivre de manière assez sereine,
voilà,
et assez apaisée à la maison.
Oui, oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous imaginez les choses pour la suite?
Ah, mais écoutez, du fait que ma mobilité sont de plus en plus perturbées, mais il est possible qu'un jour ou l'autre, je serai là même, de devoir être mis dans une chaise roulante. Et là, à ce moment-là, ma maison ne convient plus, parce qu'il y a des marches pour y arriver. Donc, je suis bien obligé de me présenter dans une maison de repos. Donc, voilà. Et j'aimerais bien connaître le nom de votre établissement.
Voilà. De la maison de repos de Bellevue.
Parce que madame était satisfaite. J'aimerais bien le connaître.
La résidence Bellevue.
Bellevue. Ouais. Et ça se trouve où?
C'est avenue
du Roi. Avenue du Roi, c'est très, c'est, ah, c'est, ça reste à Forêt, hein. Ah, avenue du Roi.
J'ai habité rue du Croissant. Dans
ah bah c'est juste à côté.
C'est juste à côté.
Merci beaucoup Bob pour ce beau témoignage et j'aimerais voilà voir avec toi Chantelle si tu avais envie de réagir à ce qui a été dit par Bob qui a dit en fait quand même beaucoup de choses sur qu'est-ce qui peut être mis en place et mis en valeur pour favoriser le fait de rester chez soi et d'y rester bien.
Mm-hmm. Mais très clairement, en tout cas, merci Bob, parce que c'était vraiment des mots que j'avais envie d'utiliser. C'est cette vie de quartier qui porte encore l'envie de sortir, de se déplacer soi-même, d'aller à la pharmacie, d'aller à des activités qui sont organisées par la commune. Donc je pense qu'un des facteurs de réussite pour pouvoir continuer à vivre chez soi, c'est de rester ancré dans son quartier. Évidemment que ça va dépendre de la mobilité qu'on peut avoir, qu'on garde ou pas. Mais donc, tant qu'on a cette mobilité, c'est garder cette notion peut-être d'effort parfois, mais de sortir de chez soi, de marcher pour aller chercher quelque chose soi-même, pour aller à une activité. Je pense que ça, c'est une des clés aussi pour rester dans une vie qui soit satisfaisante. C'est de se pousser parfois un petit peu, mais à garder du lien social et à continuer à vivre son quartier. Donc je trouvais que ce témoignage me parlait beaucoup. Je dirais aussi que, je pense qu'on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec un de vous, c'est parfois aussi de prendre assez tôt une petite aide à la maison, parce que ça rompt aussi parfois la solitude d'avoir quelqu'un qui vient amener un repas ou quelqu'un qui vient aider à faire le ménage. Je me dis que pour quelqu'un qui avance en âge, la solitude peut quand même s'installer, même si on est très bien chez soi, dans ses meubles, dans ses bibelots, dans ses souvenirs. Prendre assez vite une aide, quelle qu'elle soit. Ça peut paraître parfois une intrusion, hein, c'est quelqu'un qui vient déplacer certains objets quand elle va nettoyer ou quand elle va faire la cuisine. Ce ne sera pas tout à fait ce qu'on mangeait quand on cuisinait soi-même. Mais à la fois, je trouve que prendre assez vite quelqu'un qui est là, qui vient peut-être deux, trois fois par semaine. C'est une veille, c'est rassurant.
Voilà. Justement, l'association Bras-Dessous ont des visiteurs, visiteuses. Et là, je reçois parfois la visite de personnes venant de BDBD.
Voilà. Tout à fait.
J'en connais depuis des années.
Ouais, justement, voilà. Y a plusieurs possibilités d'aide. En fait, je me dis, il y a le quartier, il y a les voisins, il y a parfois de l'entraide naturelle. Il y a des réseaux d'entraide comme Bras-Dessous, comme Accolage. Et puis, il y a aussi quelques aides parfois un peu plus formelles, hein, aide ménagère, aide familiale. Mais ça crée du lien aussi.
De ménage, bien sûr.
Oui, c'est ça, pour les repas.
Ça, je ne suis plus capable. Alors, bien sûr, j'ai une personne qui vient nettoyer.
Oui. Et alors, il y a aussi une autre option qui s'offre à nous en Belgique. Je trouve que pour ça, la Belgique est assez créative et innovante. Il y a une association qui s'appelle Un Toit, Deux Âges. Et donc, si on a une maison avec une chambre et peut-être un petit sanitaire disponible, on peut accueillir chez soi un étudiant. Et cet étudiant, il vit sa vie, mais il peut, une fois par semaine, avoir quand même un petit contrat d'entraide. Mais évidemment, il le fait par choix et avec plaisir. Pour un loyer un peu modéré, c'est aussi une très belle formule de présence, de veille discrète, comme on dit. Je crois que quand on commence aussi à se poser pas mal de questions, j'ai l'impression que parfois les gens ne le savent pas toujours, mais la mutuelle et la commune sont vraiment des ressources d'informations et de possibilités. Et c'est vrai que moi, parfois, je suis étonnée de me dire, tiens, où est-ce qu'on peut avoir des informations ? Et tout le monde ne le sait pas. Donc la mutuelle, c'est clair que c'est un service d'aide et de soutien à la santé. Il y a des assistantes sociales qui peuvent conseiller. Donc la mutuelle et les communes font ça aussi. Et alors, c'est vrai que parfois ces services sont payants, mais donc eux vous aident à trouver aussi des aides à prix vraiment démocratique, voire liées au CPS. Donc je pense qu'il ne faut jamais hésiter à appeler. Et on parlait d'agisme. Je crois qu'on doit, c'est ça aussi l'opportunité pour demain, c'est de mettre à l'aise les personnes âgées par rapport à la demande d'aide. On a une éducation qui fait qu'on n'ose pas demander d'aide. Et en fait, l'aide, ça fait partie de la solidarité, de l'humanité, de s'aider l'un l'autre. À 30 ans, on a besoin d'aide. À 50 ans, on a besoin d'aide. À 70 ans, on a aussi besoin d'aide. Et à 90 aussi, c'est pas grave. Et donc, je trouve qu'un message aussi, c'est de se dire, oui, demandons. OK, on a un refus, on demande à quelqu'un d'autre, on cherche ailleurs.
Je sais me servir de mon PC. C'est comme ça que je sais, et j'ai appris l'histoire de la maison, naissance et mourance.
Deux passages. Mais vous nous faites une transition, Bob, mais qui est absolument magnifique, puisqu'on va justement maintenant se déplacer notre regard, maintenant qu'on a pu faire un premier arrêt à la maison. On va faire un deuxième stop, et ce deuxième stop, il va être justement pour parler des habitats complémentaires, de ces lieux qui existent entre le domicile et la maison de repos, ou à côté du domicile et de la maison de repos. On les connaît souvent très peu et ça nous semblait quand même super intéressant d'avoir, de mieux comprendre ensemble de quoi il s'agissait et qui pouvait être quand même une très belle alternative à notamment aux enjeux de solitude qui peuvent quand même se poser quand on reste à la maison. Et pour ça, donc on a invité Isabelle qui s'est présentée tout à l'heure et qui nous accueille aujourd'hui à Passage. Et Isabelle, on serait très heureux si tu pouvais nous présenter cet habitat groupé très particulier.
Merci beaucoup, mais bienvenue ici. Donc cet habitat groupé et ce projet bien plus large que l'habitat groupé, il existe dans ma tête et dans mon cœur depuis 2008. Et puis, il est devenu la réalité d'un groupe en 2013. Et depuis 2018, c'était un projet qui se concrétisait sur des plans. Et depuis l'année dernière, on est ici. Et donc, pour moi, c'était tellement... Je suis bruxelloise depuis toujours, ou à peu près. Et c'est tellement... J'aime bien la ville, j'aime bien les relations. Et pour moi, c'est tellement important qu'on puisse vivre ici, en ville, avec les nouvelles configurations que sont la ville, avec les nouveaux liens. Les liens ne sont plus les mêmes que dans le temps. Et du coup, est-ce qu'on a besoin de revenir en arrière? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est aussi une chance d'être en 2023. Et donc, comment recréer des liens entre nous, là où nous sommes, avec nos dépendances, nos fragilités, nos forces, et vraiment recréer de l'interdépendance, de la solidarité pour que ce soit bon de vivre ici en ville pour tous. Et puis moi, je suis aussi infirmière de formation. Et pour moi, donc le soin et le vivre ensemble, c'est très important. Et donc j'ai eu juste envie un jour, c'était comme un flash, de créer un lieu où il fasse aussi bon de mourir, de pouvoir vivre sa mort jusqu'au bout. Et tout de suite après, ça me venait, mais aussi accoucher, aussi naître, et que ces deux moments si importants pour la vie de chacun des individus, mais aussi pour la société, ces deux moments de passage puissent être vécus dans un lieu. Et donc, c'est comme ça qu'est venue la première intuition de ce projet qui, aujourd'hui, devient réalité. Voilà. Et donc, pour moi, ce qui est important dans ce lieu-ci, c'est qu'en fait, il y a 10 ménages qui vivent ici, des personnes depuis le plus jeune parmi nous qui a un an. Marion a accouché il y a un an d'un petit Théis, jusqu'à la personne la plus âgée chez nous, qui en a 83, presque 84, Thérèse, et puis des ménages de tous les âges qui vivent dans des appartements de 1, 2 et 3 chambres. Chacun a son chez-soi, et ça, on respecte vraiment. Il y a des espaces qui sont collectifs, qui sont communs, notre penthouse, où tout le monde peut soit vivre un apéro. Ce soir, dit Mathieu, on va boire un verre. OK, on monte, ceux qui ont envie, et on va boire un verre ensemble. Et puis, il y a un espace de création artistique et de silence juste à côté. Mais il y a surtout ces deux lieux ici, au rez-de-chaussée de notre maison de passage, qui sont un lieu très particulier d'accueil de ces moments de la naissance et de la fin de vie. Et alors, il y a des gens qui croient que c'est nous qui allons naître et mourir plein de fois. Ce n'est pas tout à fait ça. L'idée, c'est aussi d'accueillir, bien sûr, s'il y en a parmi nous qui vivent ces moments-là, mais aussi des gens plus de l'entourage, et peut-être d'abord de l'entourage proche, parce que l'idée, c'est créer des liens dans le quartier, à Forêt, à Bruxelles, donc par cercle concentrique. Mais tout le monde est bienvenu pour vivre ces moments de vie, que sont la naissance et la fin de vie. Donc des mamans, une maman qui va accoucher, le couple est bienvenu, accompagné par des sages-femmes professionnelles et des personnes qui viennent vivre leur fin de vie. Et l'idée, c'est que les gens qui habitent ici, nous, l'habitat groupé de passage, on accueille, nous sommes des hôtes et des hôtesses d'hôtes, de gens qui sont bienvenus ici pour vivre ces moments de vie avec, bien sûr, des professionnels qui accompagnent ces moments de vie que sont la naissance et la fin de vie. Et pour nous, ça a plein de sens de vivre. On commence, on démarre, il n'y a pas encore eu beaucoup d'hôtes, il y en a déjà eu 4 pour du vrai. Mais ça nous donne plein de sens à notre vie. On a chacun notre vie professionnelle et autre, privée, privative, et collectivement, ensemble, voilà, nous vivons ça. Et nous sommes nous-mêmes dans un projet plus large. J'ai dit qu'on était insérés dans un quartier et tout, mais le projet plus large, qui sont les 39 appartements de ce lieu-ci, qui s'appelle Calico, Care and Living in Community, donc vivre ensemble en prenant soin les uns des autres. C'est un projet d'un triple, en fait, habitat groupé intergénérationnel, où il y a aussi des personnes de tous les âges. La moitié des personnes qui vivent ici ont plus de 50 ans. Et l'idée, c'est vraiment comment on vit ensemble, comment on prend soin les uns des autres, chacun en respectant la vie très diverse, comme est la réalité bruxelloise, très diverse des uns et des autres, mais comment on est attentif. Tiens, toi, tu as besoin de moi, ou moi, j'ai besoin de ça pour des choses aussi simples que j'ai besoin d'un couteau ou d'huile, que je dois aller à l'hôpital. Il y a eu une de parmi nous qui est décédée, qui a eu vraiment besoin de réels soins. Comment la communauté, petit à petit, petitement, s'organise pour qu'on puisse vivre ça en, voilà, en respectant, avec les limites, c'est pas... Ouais.
Voilà. C'est la communauté aussi qui soutient l'individu et qui soutient l'individu dans toute sa liberté ouais. aussi. Et je vous propose, pour compléter ce paysage des habitats groupés, on va écouter un petit reportage qui a été fait sur un lieu, dans un lieu qui s'appelle Andromède. Andromède, c'est un projet de colocation entre seniors du CPS de Woluwe-Saint-Lambert. Et donc, en fait, là, on va entendre les habitants de cette colocation, donc toutes des personnes de plus de 65 ans, qui vivent ensemble, et elles nous expliquent avec leurs mots, justement, qu'est-ce que ça leur permet, ce nouvel habitat.
On connaît les colocations de jeunes, mais de vieux.
Moi, j'habitais seul. Et d'habiter seul, c'était compliqué pour moi. Je n'aime pas. J'étais toujours dépressive, un peu dépressive. Hein.
Mais beaucoup s'adressent à nous justement parce que ils sont isolés et ils ne veulent plus de cet isolement, de cette solitude. Et donc c'est vraiment aussi Andromède est là pour pallier à cette solitude. C'est vraiment la mission aussi d'Andromède.
Je sais que quand je me couche, il y a quelqu'un à côté. Le matin, la même chose. C'est une compagnie, si vous voulez. Non, c'était un bon système. Très bon système.
Quand on vit seul, c'est pas toujours facile. Il faut préparer ses repas, il faut faire les courses, etc. Question de sécurité. Si je devais être malade ou tomber ou quoi et faire quelque chose, on me retrouverait peut-être malheureusement dans un piteux état plus tard. Alors bien sûr, j'ai préféré maintenant venir ici.
Si vous êtes toute seule et que vous avez un malaise, vous avez téléphoné à l'hôpital? Le 112, vous avez fait? Vous comprenez? Seul, c'est seul. Hein? Et ici, on n'est jamais toute seule.
J'aime bien quand il y a la viande à couper à Madame Boulanger, qu'elle a un peu difficile à couper. Et voilà, je fais ça souvent, oui.
Merci.
Bon appétit.
Oh, tu m'en as trop.
Ah, faut tout manger, hein.
Moi, je trouve que c'est assez confortable pour le prix qui est payé.
J'ai pas une petite pension, mais quand même. Alors ici, il y a moyen de vivre. On vit bien. On n'est pas à court, on n'est pas stressé. On n'a pas 11 euros pour finir le mois.
Vous écoutez Radio Mouette sur Radio Panique. On est ensemble jusqu'à 11h.
Moi, ce que j'aimais beaucoup dans le reportage qu'on a entendu, c'est que j'ai l'impression qu'il a quand même mis en exergue beaucoup des enjeux qui sont assez centraux quand on est réfléchi à son chez-soi. Voilà, sur les questions de solitude, de sécurité, la question des sous aussi, qui n'est pas anodine. Le fait que vivre en collectif, c'est à la fois préserver sa liberté, mais c'est aussi savoir qu'il faudra potentiellement régler des conflits. Et Andromède marque bien ce travail d'un habitat qui soit peut-être un entre-deux, entre le chez-soi et la maison de repos. Et donc là, j'aimerais tout de suite passer à toi, Chantal, peut-être pour... malheureusement, on n'a pas énormément de temps, donc assez rapidement, mais... se redire comme ça un petit peu le paysage de ces habitats groupés, comme Andromède, comme Passage, qui sont là pour proposer des réponses différentes à ces enjeux qui ont été listés. Donc on t'écoute.
Mais merci. Et comme ça a été dit dans le reportage, c'est vrai que ce qui est important, c'est de pas non plus opposer les lieux de vie. En fait, ils s'adaptent à chaque situation selon l'évolution. On amène chez soi et puis peut-être qu'on a besoin de liens et qu'on va dans un habitat groupé. Et puis on a plus besoin de soins et la maison de repos sera vraiment la bonne réponse. Mais donc, surtout pas d'opposition. Adaptons-nous au moment de notre vie. Et dans les habitats groupés, qu'on appelle aussi habitats alternatifs, aujourd'hui, alternatifs, complémentaires par rapport au domicile et aux maisons de repos, moi, j'en connais de différents profils. Je vais dire, il y a des colocations beaucoup plus intergénérationnelles où c'est vraiment une recherche de vie en différentes générations, comme on l'a expliqué, comme Isabelle l'a expliqué pour Passage. Il y a aussi le 54 à Forêt, qui est une maison dans laquelle des plus jeunes, des plus âgés vivent dans une grande maison et assurent du lien social et un peu de sécurité. Un toit deux âges, on en a parlé, c'est cette mixité d'étudiants. Donc ça, c'est plutôt les aspects plus intergénérationnels. Et puis, il y a des colocations vraiment entre seniors, donc des lieux de vie qui sont dédiés aux personnes seniors. Alors, je ne vais pas donner d'âge parce que je ne suis pas toujours d'accord avec les âges qu'on va mettre, mais peu importe l'âge. Mais c'est des gens qui ont plutôt envie de se retrouver entre personnes d'un âge au-delà de la retraite, on va dire. Et alors là, il y a plusieurs choses qui existent. Il y a les griottes à Skarbek, il y a Andromède, on en a entendu parler, il y a Biloba aussi à Skarbek, qui a une spécificité, peut-être liée à la commune aussi, d'une grande richesse multiculturelle, vraiment des habitants d'origine très différente et qui explique, comme on l'a déjà un petit peu évoqué, cette importance d'être ensemble, mais aussi cette complexité. Il n'y a rien à faire dans une vie en communauté comme celle-là, où on est un peu en autogestion, hein, on s'organise de manière autonome, ça crée des conflits et il faut gérer les conflits. Donc il y a Biloba. Il y a aussi tout le groupe Abbey Field, je dis groupe, mais il y a plusieurs maisons Abbey Field dans les trois régions du pays. Il y a une approche un peu différente parce que là, on est coopté par le groupe. Donc en fait, il n'y a pas des critères, on peut aller dans telle ou telle maison. C'est le groupe d'habitants qui accueille quelqu'un pour une forme d'essai de part et d'autre. Il faut que les gens aient envie de vivre ensemble. Et donc là, il y a une cooptation et la maison se construit comme celle-là. Et alors, une nouveauté qui est quand même en train d'essayer de trouver son chemin, c'est des colocations pour personnes plus fragilisées. Parce que ce dont on se rend compte dans tous ces habitats groupés, c'est que peut-être à un moment, avec une maladie d'Alzheimer, des fragilités cognitives qui augmentent ou des besoins physiques plus lourds, tant mieux si ces gens peuvent rester dans l'habitat groupé existant, mais parfois ça devient trop lourd, trop insécurisant et pas tout à fait adapté. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a encore vraiment besoin de soins ou d'une vie en maison de repos. Et donc, il y a des innovations au niveau des habitats groupés pour des personnes avec fragilité cognitive. En Wallonie, il y a le nouveau chapitre, les maisons partagées du nouveau chapitre, qui a ouvert une maison à Fos-la-Ville, plutôt dédiée pour des couples dont une personne a une maladie d'Alzheimer. Et puis à Bruxelles, moi je soutiens un projet Vice Versa Habitat qui veut ouvrir une maison d'une dizaine d'habitants qui a une fragilité cognitive, une maladie d'Alzheimer, avec un accompagnement là, professionnel à subsidier évidemment au niveau santé. D'autres aspects encore qui existent dans le paysage belge, c'est les résidences-services. C'est une autre approche parce qu'une résidence-service, il y a un directeur et donc c'est vrai que quand il y a des conflits, etc., il y a quand même une référence, une personne de référence qui va quand même organiser. Donc c'est une autre approche que l'habitat solidaire pour moi, mais c'est très intéressant pour certaines personnes aussi qui préfèrent ça. Résidence-service, vous avez votre appartement et puis vous avez quelques services, les repas, des aides qui sont payantes. Et future opportunité aussi à Bruxelles, ce seront, on l'espère en tout cas, les résidences services sociales qui, elles, ont un aspect beaucoup plus inclusif des différences sociales et d'ancrage dans le quartier et de continuer à vivre en communauté, mais vraiment avec beaucoup de liens sociaux. Je crois que là, je fais un peu le tour des alternatives.
Isabelle, je te voyais noter des petites choses pendant le reportage sur Andromède. Est-ce que ça t'a...
Je pense que l'habitat coopé a une des spécificités, c'est la participation, c'est l'interdépendance, c'est la solidarité. Ceux qui ont envie de vivre ça, je pense que c'est une bonne opportunité de tester. Et donc, chez nous aussi, on vient d'abord pendant 6 mois pour voir si réciproquement c'est une chose possible. Et ce que je voulais aussi dire, c'est que c'est une vraie chance pour les personnes qui y habitent, mais aussi pour la communauté. La communauté est grandie. Toi, tu parlais de soutien tout à l'heure. Et je pense que c'est réciproquement... Nous sommes tous changés du fait d'habiter ensemble, de se supporter les uns les autres, de s'apporter les uns les autres. Je pense que on en sort plus humains.
On va faire la transition maintenant pour parler des maisons de repos. Et pour faire cette transition, on vous fait écouter un tout petit son qui vient d'un reportage que j'ai fait sur les Olympiades Interhomes qui étaient organisées en mars dernier, qui étaient initiées par Youssef Kadar, qui est un éducateur à la maison de repos Acacia. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ce même éducateur qui a fondé l'école des devoirs à la maison de repos Acacia, dans laquelle on avait posé nos micros pour faire l'émission « On a des choses à vous dire » que vous avez écouté juste avant celle-ci. Youssef Kadar est donc un homme assez extraordinaire. Et donc depuis plusieurs années, il fait des Jeux Olympiques entre les maisons de repos. Cette année, c'était la deuxième fois que c'était en collaboration avec la Haute École de Fray à Uccle. Et c'est 16 maisons de repos qui ont participé aux Jeux. J'y étais, c'était un moment assez extraordinaire, avec beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, des choses qu'on n'associe pas forcément à l'univers des maisons de repos. On vous fait écouter.
Le temps retrouvé, une émission de Radio Mouette.
Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez ?
Je m'appelle René Paul.
Et est-ce que vous pouvez me raconter ce qui se passe aujourd'hui ?
Eh bien, aujourd'hui, c'est une grande manifestation des maisons de repos qui viennent faire des jeux et s'amuser. Voilà.
Et vous venez de quelle maison de repos ?
La maison de repos Les Trèfles, qui se trouve route de l'Enix 179 à Anderlecht.
Est-ce que vous pouvez me raconter ce qui s'est passé ce matin ?
Oh là là, oui, vous allez loin chercher, mais bon, d'abord, on était réunis, puis ils nous ont expliqué ce qui allait se passer. Et on a fait quelques jeux, on a fait... qu'est-ce qu'on a fait ce matin? On a joué au quai, on a joué au ballon, à la pétanque. Voilà, je cherchais le numéro de pétanque. Je crois que c'est tout ce qu'on a. Et jouer aux quilles aussi, lancer une balle sur les quilles. Voilà.
Et est-ce que votre maison de repos a gagné sur des épreuves?
Oui, sur certaines épreuves, on a gagné, mais je ne pense pas. L'année passée, elles ont joué, mais je n'en faisais pas encore partie. Elles étaient deuxièmes. Et je crois que cette année-ci, on sera plus à la traîne, parce qu'on est plus nombreux et il y a des personnes plus âgées.
Il y a eu la pause déjeuner et après, qu'est-ce qui s'est passé ?
C'était très gai parce qu'on a pu chanter, on a dansé, des chansons qu'on connaissait, des qu'on ne connaissait pas, mais on faisait la 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 la, voilà. Là.
Et vous aviez une chanson préférée ?
Ah oui, moi dans un coin perdu de Bretagne, hein. Mon petit Savoyard, hein. Dans un coin perdu de Bretagne, un tout petit Savoyard. Quand ça joue, alors je sais, sa bergère et le petit Savoyard, c'est le nom de la chanson. Voilà.
Et est-ce que vous avez dansé ?
Un petit peu. Un petit peu, oui, mais un petit peu sur l'air de valse à mille temps, mais on ne sait pas la valse parce que j'avais peur que ma tête ne tourne. Et bon, les bras, on a fait quelques barres comme ça sur le côté.
Et votre jeu préféré ce matin, c'était quoi ?
Ah, le hockey, moi, je suis hockeyeuse. J'en faisais plus les derniers temps parce que c'était en maison de repos. Mais oui, j'ai verti jusqu'à 80 ans, j'ai joué au hockey. Et j'ai joué au goal. C'est pour ça que j'aimais bien venir aux Olympiades. Mais j'avais quand même peur parce qu'il y a des choses comme tir à l'arc et tout ça, j'ai jamais fait. Et c'est ça, on a fait. Mais bon. Je prenais la balle de hockey, ça a été. Je pense que basket, je n'ai pas fait, mais je saurais aussi jouer au basket. J'ai appris, parce que j'étais dans l'enseignement et quand le mercredi après-midi, on avait congé, je donnais entraînement de basket à des élèves. Donc, je suis peut-être encore visée dans le panier. Je vois toujours le rectangle, il y a toujours, donc je vis ce rectangle. Voilà.
C'est formidable. Merci beaucoup. Un très grand merci.
Courage pour la suite.
Fait un carton pour un flirt avec toi.
Et j'ai chanté ça
on l'a,
en
oui.
public, en karaoké. Hein.
Ah, bah voilà. Et ben, écoutez, l'année prochaine, donc la maison de repos Bellevue, elle participe hein, aux Olympiades Interhome. Donc l'année prochaine, vous vous inscrivez.
Oui, mais j'ai plus de voix. C'est tout comment ce que ça, vous avez entendu.
Mais on peut danser aussi.
Et danser,
jouer au basket, à la pétanque.
Mais je sais plus.
Ouais.
Je ne sais plus.
Ça reste à voir.
Tout ça
reste à voir.
Est terminé.
Il y a un an pour s'entraîner.
Malheureusement.
En tout cas, ça nous permet de faire la transition sur cette dernière partie d'émission. On va parler des maisons de repos. Et du coup, c'est à vous, Yolanda, que j'avais envie de poser quelques questions.
Oui.
Parce que justement, vous êtes arrivée en maison de repos il n'y a pas beaucoup de temps. Et c'est vous qui avez fait le choix de venir en maison de repos.
Oui.
Et je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer un petit peu, voilà, comment vous aviez fait ce choix et est-ce que vous aviez des craintes? Enfin, comment
oui.
ça s'est passé? Vous nous
J'avais
dites
J'avais des craintes parce que moi, je suis une personne très autonome et qui aime bien de rester seule. Je suis un lion, je suis très solitaire et j'ai besoin de personne, je ne m'ennuie jamais. Parce qu'avec mon mari, jusqu'à 55 ans, on a fait la brinque toutes les nuits, donc on ne dormait pas. Alors maintenant, je n'ai pas beaucoup de besoin de sommeil. Je vais dormir à des minuit, 1h du matin, même ici. Hein. Je ne sais pas, voilà. Mais faire ce que vous me demandez, ça va être au-dessus de mes forces parce que vous voyez, déjà, je n'ai plus qu'un filet de voix parce qu'on m'a déjà intubé 10 ou 10 fois. Hein. Donc, et qu'est-ce que vous vouliez encore savoir?
C'était de savoir comment est-ce que vous avez pris la décision de venir en maison de repos.
Ben ça, c'est parce que je n'avais plus envie d'être seule. Parce que je suis très accompagnée, j'ai plein de petits-enfants, mais ils sont en Italie, au Japon, en Suisse, donc ils ne sont pas près de moi. Alors, et mes petits-enfants, ma fille de cœur, je n'ai pas d'enfants, ce sont des enfants de cœur, j'ai deux filles. Et elles travaillent toutes les deux, même à Saint-Pierre, et malheureusement, elles ne savent pas s'occuper de moi. Alors, elle me dit, prends quelqu'un le matin. Oui, je dis, le matin, le soir, ma toilette, puis on me laisse là à 6 heures. Et je fais quoi, moi? Je ne savais plus rester debout convenablement. Alors, j'avais demandé au docteur Lehmens pour me chercher. Et je vous ai dit, ma petite fille s'est mise en communication. Et alors, elle avait dit, on va garder l'appartement 3 mois et on verra. Puis après, quand je me suis trouvée ici chez vous, je me suis dit, à 95 ans, pourquoi, si j'attrape de nouveau une crise, là, toute seule, de nouveau hôpital, parce qu'on m'a emmenée d'urgence à l'hôpital, puis de l'hôpital ici.
À la maison de repos,
oui,
Bellevue, d'accord.
À Bellevue, okay. Hein. Donc, je n'avais plus envie de recommencer ça.
D'accord.
Oui, parce que la dernière fois que j'ai eu un problème de cœur, il y avait la doctoresse qui me disait, « Et qu'est-ce que vous voulez si vous revenez ?» Oh, j'ai dit, « Laissez-moi partir. » Mais mes enfants, ils ne veulent pas. Ils veulent que je vive jusqu'à 120 ans, comme Jeanne Calment, et les petits-enfants, ils sont là. Hein, alors,
et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé à Bellevue qui vous a fait vous sentir bien? Qu'est-ce qui...
Parce que je trouvais que ma chambre était bien.
Oui.
Et alors, après, j'ai commencé à voir que le personnel était adorable. Et alors, je me suis dit, là, je vais être gâtée. Hein. Et alors, je me suis dit, je reste.
Et les autres personnes dans la maison de repos, est-ce que vous êtes en train de construire,
oui,
des amitiés?
Chaque fois qu'on a des petites réunions, ben, j'y assiste, hein, chaque fois. J'essaye de faire le maximum. Parce que moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, je suis ce genre de personne qui sort et qui va voir les magasins. Parce qu'avant de venir ici, j'allais encore au restaurant et tout, avec une amie qui a travaillé au barreau de Bruxelles et qui habite la maison. Et dans la maison, j'avais l'aide du président, que je connais aussi depuis 20 ans. Mais ça ne me suffisait pas. Parce que le soir, une fois 6 heures, je me disais, et puis avec mon manque d'estomac, quand je devais aller à la toilette parfois, je devais tellement. Et alors, quand ça me prend, hein, je suis là. Plus
de la tête
faite.
Ouais. Oui. Et donc, vous vous sentez plus en sécurité alors,
oui,
aussi à Bellevue. Hein?
Oui.
Ouais. Okay.
Mais je ne suis pas ennuyée seule dans ma chambre. Hein. Je m'ennuie jamais. Malgré que je ne vois presque plus clair, je fais encore une petite page de mots croisés. Mais non, moi je ne m'ennuie jamais.
Et non. Ça, c'est un don.
Oui. J'ai jamais soif, j'ai jamais faim, j'ai jamais sommeil. Je suis un être qui vient d'une autre planète. C'est pas possible, ça. Hein.
On va arriver, en fait, progressivement à la fin de l'émission. Le temps passe, en fait, beaucoup trop vite et il nous faudrait bien plus de temps pour voir tout ça. On va finir avec des petits mots de Chantal, peut-être, qui va nous parler, nous donner quelques compléments d'informations encore sur les maisons de repos. Même si, je pense, encore une fois, Yolanda a dit beaucoup de choses déjà avec ses mots sur ce qui peut nous surprendre finalement dans les maisons de repos, malgré l'image qu'on en a.
J'ai fait des activités avec les chevins d'Ilbeek de la maison communale.
On vous écoute, Chantal.
Je crois que les trois choses les plus importantes qui ont été dites par Yolanda et Bob, c'est d'avoir dans une maison de repos sa chambre, son logement. Moi, j'aime bien dire un logement qui plaît, qui peut être un petit peu adapté à ce qu'on aime. Pour se sentir chez soi, vous avez aussi dit la participation quand il y a un groupe de réflexion sur comment peut évoluer les activités, les repas, etc. Et alors, le plus important, je pense que c'est l'accueil du personnel et l'humanité du personnel. Et donc, si ces trois points, et ils sont vraiment en train de se développer dans les maisons de repos de plus en plus. Il faut savoir que les maisons de repos, elles viennent d'un trop-plein hospitalier, et donc elles ont été créées comme des hôpitaux de manière vraiment très soignante. Et aujourd'hui, on parle de plus en plus de ce lieu de vie. Ce qui nous fait peur parfois par rapport à la maison de repos, c'est que c'est un peu le dernier lieu de vie. Et donc forcément, quand on fait ce choix, on sait que c'est sans doute le dernier lieu qu'on va habiter. Mais voilà, c'est la vie, vous avez dit, on se sent en insécurité, on a envie d'être plus avec du lien social, avec de l'aide. Eh bien, on y va et on continue à avancer dans sa vie. Mais je crois qu'il y a vraiment trois choses très importantes. C'est que le personnel reste connecté à ce relationnel, à ce besoin d'échange avec les habitants, que le soin, il est indispensable, mais il n'est pas prioritaire. Il passe comme une tâche de la vie quotidienne et qu'on vous laisse occuper vos logements avec tout le cœur que vous avez envie d'y mettre. Et voilà, les petits bibelots et les petites choses, évidemment, on ne peut pas tout déménager, mais les petites choses qu'on a envie de voir un peu tous les jours, quand on se lève, quand on va se coucher. Aujourd'hui, dans les maisons de repos, il y a quand même des grands mouvements d'évolution, comme le modèle tube, comme l'approche Montessori, qui essayent vraiment de remettre l'habitant dans son lieu de vie et de dire aux professionnels, vous êtes des invités dans le lieu de vie des personnes âgées. On travaille chez eux, ce n'est pas eux qui viennent vivre sur notre lieu de travail, c'est nous qui allons travailler là où les aînés vivent. Et je pense que déjà, ce regard-là pourrait faire évoluer très fort les choses.
Merci.
Moi, je suis dans une espèce de petit cocon, parce que tout le personnel, je passe n'importe où, Yolanda, et on me fait des câlins en plus.
Eh bien, sur ces belles paroles de câlins, l'émission va arriver à sa fin. J'espère que pour les auditeurs et les auditrices qui nous ont entendus, on a fait ce chemin ensemble de réenchanter notre regard. Je crois qu'en tout cas, autour de la table, on a plutôt les yeux qui pétillent après cette heure passée ensemble. Donc, je voulais dire un grand merci à toutes nos invitées, tous nos invités. Et je vous souhaite bonne continuation dans tous vos habitats.
Savez-vous bien qu'à Forêt, il y a 27 centenaires.
Waouh.
Déjà 27
centenaires, donc j'ai l'espoir.
On y arrivera peut-être aussi.
Ah, voilà.
C'est la fin du programme de Radio Mouette sur Radio Panique. Merci d'être resté avec nous. C'était super chouette d'être en votre compagnie. Radio Mouette reviendra sur Radio Panique au début du mois de juillet pour vous proposer cette fois-ci un programme qui vous accompagnera de 11h à 14h. Parmi plein de belles choses, on cuisinera et on dînera ensemble. On a bien hâte de vous retrouver. Radio Mouette, c'est un projet avec vous et pour vous. C'est peu dire que votre retour nous est précieux. On sera ravis d'accueillir vos impressions et de continuer à imaginer la programmation grâce à vos remarques. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 0488 92 90 14, 0488 92 90 14, ou nous écrire à l'adresse suivante anne-louise@radiomouette.com radiomouette.org. Merci énormément à Radio Panique de nous avoir si bien accueillis. On vous rend l'antenne.
Pourquoi les mouettes? Parce que c'est chouette. C'est pas mauvais ça.